Bonjour, vous êtes bien dans notre chronique underscore. Et cette fois je suis sûr que ça va vous plaire car j'ai sorti de mes vieux cartons quelques cassettes pour mettre dans mon ordinateur. Vous ne me croyez pas et bien écoutez ce qu'il suit.
Ah bon? Tu mets des cassettes dans ton ordinateur, toi?
Ah ouais? Ah.
Bonjour Mimiman.
Bonjour Cécile.
Bonjour Dodo.
Bonjour Cécile, bonjour Mimiman.
Alors effectivement, cette semaine, nous allons vous parler d'un sujet qui tient à cœur notre ami Rododo, qui va nous parler de...
d'Amstrad CPC.
Voilà, ouais. Tout à fait. Et maintenant, tous allons passer à l'actualité.
À l'actu. La fondation Raspberry Pi devient membre de la fondation RISC-V. RISC-5, en fait, c'est le 5 romain. Et le but n'est pas pour l'instant de fabriquer un matériel. Hein. On vous a expliqué, il me semble que le RISC-5, c'est une architecture ouverte. Donc, c'est pas pour fabriquer un Raspberry Pi avec un RISC-5, mais de supporter l'architecture au niveau logiciel, ce qui est déjà pas mal.
Le numéro 263 de la revue de la Gendarmerie Nationale est sorti. Nous non plus, ce n'est pas quelque chose qu'on lit habituellement, mais ce numéro est un spécial sur la sécurité informatique et la vie privée, et parle notamment du poste de travail sous GNU Linux.
Le loueur de scooters Bird s'excuse d'avoir menacé Cory Doctorow. L'entreprise dont les scooters sont abandonnés par pile a menacé le journaliste expert en droit d'auteur de poursuite pour avoir mentionné un forum expliquant comment remplacer la carte mère après en avoir acheté un aux enchères pour juste pouvoir s'en servir. Sauf que c'était le mauvais pigeon et ils ont fini par s'excuser. Enfin, faire semblant qu'ils n'avaient pas fait exprès. Après les tracteurs sous DRM, les scooters...
Waouh.
Et ouais. Un maire installe des feux rouges pour contrer Waze. L'application ayant décidé de faire passer les automobilistes par sa ville en guise d'itinéraire alternatif, le maire de Lieusaint a décidé, après avoir en vain tenté de demander à Waze de changer son itinéraire, d'installer des feux rouges à des endroits incongrus afin de pénaliser le trafic traversant la ville, mais pas les riverains.
Pas mal. 226 volontaires de la France entière réunis sur le campus de Microsoft France à Paris.
Ouais.
Ouais, pour le lancement des jeunes programmes citoyens du numérique et pour former à l'IA, enfin l'idée de leur IA. Hein.
Ouais.
Ouais, parce que Microsoft privative la formation encore une fois. Hein.
Le comité de rédaction du journal of Informatrics démission.
Tu parles pas, non ?
Démissionne.
Démissionne. Ah ben, bah, il faut écrire correctement.
Ouais,
et lance un rival Open Access. Suivant ainsi l'exemple du journal Lingua, ils ont démissionné en bloc de ce journal détenu par Elsevier.
On en a déjà parlé, hein, vous vous souvenez, Elsevier, le gros éditeur de publications scientifiques.
En protestation des frais imposés pour publier les articles en open access. Comme on vous l'a expliqué récemment, ça commence à bouger dans le monde de l'édition scientifique et c'est tant mieux.
La loi Adopi se dit désarmée face à la complexification du piratage.
Oh, bah alors, l'autorité, la Adopi en tant qu'autorité, voilà. Bah oui, c'est dommage, hein.
Ils découvrent pourtant scolarité depuis le début, hein.
Ouais, bah ouais, mais faut répéter.
Eh bien, une petite pause.
À tout de suite.
À tout de suite après pour vous reparler de l'Amstrad
CPC. Avec des cassettes. We'll be right back.
Alors pour ceux qui n'ont pas l'oreille très habituée à la chiptune, je vous rappelle que c'était un extrait de la musique proposée par Zik, qui est issue de la démo 30 ans d'Amstrad Démo. Donc voilà, un gros morceau, hein. 30 minutes de démo, c'est assez énorme pour cette machine. Mais voilà, on avait envie de vous introduire le sujet par cette musique, parce qu'elle retranscrit un peu l'univers qu'on va pouvoir écouter à travers ce que Redoudou va nous présenter. On t'écoute.
Alors, bonsoir. Donc, je vais vous parler de la machine. On va pas parler démo cette fois. Et c'est histoire de faire un petit historique pour ceux qui connaissent pas donc, l'Amstrad CPC. Donc d'abord, pour commencer, ce qu'il faut, c'est présenter Alan Sugar, de son nom complet, Alain-Michel Sucre. Hein,
Sucre.
En français,
oui,
dans
Sucre.
Le texte.
Et Amstrad, c'est le diminutif d'Alain-Michel Sugar Trading.
Donc,
Donc
j'ai
percuté il n'y a pas longtemps.
Ouais, oui, c'est rigolo. Hein. C'est comme, il y a beaucoup de sociétés qui font ça. En fait, quand tu regardes le nom du proprio, tu retrouves les initiales. Donc Amstrad, à la base, est une compagnie qui vend de l'électroménager. Ils vendaient aussi des chaînes stéréo qu'on a beaucoup trouvées à l'époque en France. Puis un jour, le PDG se dit qu'il y a certainement de l'argent à faire avec de l'informatique. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y a énormément de machines différentes.
On est en quelle année dans cette période ?
On est 1982-1983 quand ils commencent à avoir un peu l'idée de faire ça. Par contre, toutes les machines qui sont abordables, c'est-à-dire que dans les 3 000-4 000 francs, doivent forcément être branchées sur une télévision. Donc ça veut dire qu'on monopolise la télévision, parce que les gens n'en ont qu'une souvent, et les modèles qui sont vendus avec des moniteurs, par contre, sont beaucoup plus chers. Donc l'idée de base, ce sera de faire un prix agressif avec un moniteur qui est compris dans le prix. Donc pour se donner une idée, au moment où le 464 sort en 1984, un TO7 est vendu au même prix, mais sans écran. Donc si Amstrad est une société habituée à la production, elle n'a aucune expérience en informatique. Elle va alors sous-traiter la conception à Roland Perry, qui revoit complètement les specs d'origine à base de Motorola pour y mettre un Z80. Alors là, c'est le cœur d'un fan qui parle, hein, mais le Z80, c'est le meilleur processeur 8 bits. Il y a beaucoup de registres, beaucoup d'instructions, le CPU est souple, simple à programmer, et il est compatible avec l'Intel 8080. Ce choix arrangeait aussi la société Locomotive chargée de réaliser le BASIC, car il n'était pas sûr de pouvoir faire une adaptation sur Motorola. En prime, l'utilisation d'un Z80 ouvrait la porte à la compatibilité CPM, l'ancêtre du DOS, et son immense Logitech professionnel. Ne restait qu'à lui mettre une puce sonore, un contrôleur vidéo et un lecteur cassette.
Cassette
que fabriquait déjà Amstrad pour mettre dans ses chaînes stéréo. Donc au passage, j'informe nos amis ataristes que la puce vidéo permet de faire un full screen stable avec quelques lignes de basique. Je sens les regards de jaloux tout de suite. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc, Amstrad fabriquait déjà des lecteurs cassettes, mais aussi ils étaient équipés en moule pour faire de l'injection plastique. Donc tout ce qui était la fabrication des touches, du boîtier, ils avaient déjà tout le matériel. Donc ils arrivaient vraiment avec l'artillerie lourde, on va dire. Alors, en faisant un gros raccourci, on peut considérer qu'il y a eu deux modèles de CPC, le 464 avec un lecteur cassette et 64 kilo-octets de mémoire, puis, à peu près un an plus tard, le 6128 avec un lecteur de disquette et deux fois plus de mémoire.
Autrement dit, 128K.
128K.
128 kilo-octets, hein, on n'est pas dans les gigas, les teras, les oulala, loin de ça.
Très peu de mémoire. Donc certains ont pu connaître un modèle intermédiaire très joli avec des touches bleues et un gros curseur qui rappelle le MSX, c'est le 664. Mais pour une raison inconnue, Amstrad donc, a rapidement produit la version 6128. Donc pourquoi je parle d'une raison inconnue? Tout simplement parce que cette mémoire supplémentaire a été très peu exploitée par les logiciels commerciaux. Et ça, c'est une grosse frustration que j'ai eue en tant qu'utilisateur. Parce que le H1 Alain Michel Sucre, là, il n'était pas là pour faire la meilleure machine, il était là pour faire du business. Et au final, pour vendre le plus possible de logiciels, il ne faut pas léser les machines avec moins de mémoire. Résultat, si on cherche des logiciels exploitant cette mémoire supplémentaire, on les compte sur les doigts de la main, à comparer avec la dizaine de milliers de logiciels produits sur cette machine. De l'aveu de l'équipe commerciale France de l'époque, ils ont vendu le CPC comme ils vendaient leur machine à laver, et ça a fonctionné puisqu'au total, ils s'en est vendu 1 million d'exemplaires en France, soit un tiers de la production monde. Dépassés par le succès, il y a même eu des couacs d'approvisionnement. Alors, je repense en particulier aux fameuses disquettes 3 pouces qui coûtaient jusqu'à 20 francs l'unité. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle des francs ici.
Ouais. Alors qu'à l'époque, les lecteurs 3 pouces, ils étaient utilisés parce qu'ils étaient moins chers que les 3 pouces et demi qui arrivaient déjà en fait.
Alors, les lecteurs 3 pouces, eux, ils avaient choisi d'intégrer des lecteurs 3 pouces parce que on suppose fortement que Alain-Michel Sucre était tombé sur un stock d'invendus et que ça lui permettait de marger encore plus sur sa bécane. Donc, pour rappel, les disquettes 3 pouces, ce sont des disquettes compactes, rigides, qu'il fallait retourner, comme les disquettes 5 1/4, hein, face à face B. Il y a le lecteur, si le lecteur était moins cher, c'est parce que c'est un lecteur simple face. Et en France, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres ordinateurs qui utilisent ce lecteur.
Ça me dit rien du tout.
C'était japonais.
Loric a eu des lecteurs, des disquettes 3 pouces aussi, ouais.
Mais ce sont des disquettes et des lecteurs qui ont eu plus de succès au Japon. Ouais. Et pas en Europe. In fine, début des années 90, Amstrad abandonne la production d'ordinateurs après une tentative ratée de relancer les modèles avec des versions plus. Donc la version plus, hein, complètement anachronique, c'est-à-dire qu'on est en 1990 et Amstrad sort un ordinateur à cassette. Je crois que c'est le dernier ordinateur à cassette du monde qui a été produit. Une fois de plus, à côté, on retrouve le modèle 6128 avec un lecteur disquette et plus de mémoire, ainsi qu'une console sympathique mais déjà dépassée, car la Mega Drive sortait la même année ou presque. Donc ces modèles plus, il s'en est vendu entre 100 et 200 000 exemplaires.
Ah ouais, pas plus, c'est le cas de le dire.
Pas plus, et puis il y a eu très peu de jeux dessus qui n'exploitaient pas forcément toutes les capacités. Donc face à l'Atari et l'Amiga qui étaient dans la force de l'âge, le coup de bluff cette fois ne prend pas. Amstrad met la clé sous la porte, laissant de nombreux utilisateurs orphelins.
Mais alors l'histoire s'arrête là ?
Non, l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré l'abandon du fabricant et de nombreux éditeurs qui, eux, ont migré pour le monde du PC, une communauté s'était créée au fil des ans. Il y avait certes le bouche à oreille, les échanges dans la cour de récré, mais aussi tout un tas de fanzines amateurs et d'événements organisés par les Amstradistes, portés par les démomakers de l'époque. Mmh. Il y a aussi le magazine Amstrad 100% qui a beaucoup contribué à faire durer la machine avec de nombreux cours de programmation, c'était assez pointu, des bricolages divers, et tout ça a permis de générer vraiment toute une série de productions amateurs. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus à titre personnel, c'est vraiment qu'avec un Amstrad, on avait une envie de créer instantanément, et surtout, on avait la facilité et les moyens de le faire. Parce que l'Amstrad, dès qu'on l'allume, paf, on est tout de suite sous le basique, donc on peut programmer. Donc à la fin des années 90, certains bricoleurs avaient créé de nouvelles extensions pour la machine, si bien qu'on pouvait jouer à Boulder Dash en réseau à 8 personnes en simultané.
En réseau ?
En réseau, oui, tout à fait. Alors c'est un réseau fait avec des câbles audio.
Tu vois, ah oui, tiens.
On mettait des...
Ouais,
des...
Bon, on faisait ça à une époque sur les calculatrices TI aussi.
On branchait en RCA, c'était un système à jetons, et on pouvait jouer à 8, et c'était extra.
La balle, hein.
Alors, l'Amstrad était déjà bien fourni en extension. Hein. Parmi les plus notables, on avait un digitaliseur qui permettait de faire des captures d'écran à partir d'une entrée vidéo, un scanner de documents dont la tête de numérisation se plaçait sur la tête d'une imprimante. Donc c'était la première imprimante tout en un,
classe.
En fait. Voilà, donc c'était une Amstrad.
Wow.
Dernièrement, il y a une extension qui a créé une mini polémique dans le monde du CPC. Parce que nous, on aime bien les polémiques sur CPC.
Bah, les dramas, ça existe bien, hein, voilà. De partout.
Parce que cette extension, c'est un ordinateur complet, 1000 fois plus puissant qu'un CPC. Un Raspberry Pi, tout le monde connaît ici.
Bien
sûr. Raspberry Pi. Et donc, ce Raspberry Pi, il a un port SD, un port USB, il a du Wi-Fi et on peut le brancher sur n'importe quel CPC. Depuis le basique, on peut configurer le réseau Wi-Fi, donc ça c'est super sympa, on est avec son ordi et hop, on peut pas surfer, mais on peut faire des WGET hein, si on veut, on peut mettre
c'est
à jour
cool,
la carte.
Ça supporte IPv6
Oui.
Oh. Bah oui, hein, l'IPv6 ça date de plus de 20 ans maintenant.
Bah ouais.
Et puis la carte est une adresse IP. Hein. Ouais. Et donc elle fait à peu près tout, hein. Elle fait extension ROM, extension cartouche, elle fait 6000 disques durs, stockage de masse, donc... Et surtout, le truc génial pour un développeur, c'est de pouvoir l'utiliser depuis un autre ordinateur et d'injecter dans le CPC des données via le Wi-Fi, ce qui évite pas mal de manipulations fastidieuses si, par exemple, on veut faire du développement ROM ou du développement cartouche. Parce que le développement cartouche, l'Amstrad n'est pas capable lui-même d'écrire sur une cartouche. Ça, c'est pas possible. On a aussi Gérald qui a créé une cartouche virtuelle dans laquelle on met une carte SD. Donc ça, c'est une extension qui est...
Oui, c'est assez courant maintenant dans les vieux ordinateurs.
On retrouve ça pour la plupart des consoles à cartouche. Hein. Donc qui a permis surtout d'étendre la Logitech de la console, puisque la console n'avait que 22 cartouches commerciales. Enfin, je dis 22, je me trompe peut-être. Mais c'est dans cet ordre d'idées-là. Et du coup, il y a plein de passionnés qui ont modifié tous les jeux commerciaux de l'époque pour transformer les contrôles clavier en contrôles joystick. Et du coup, maintenant, la console a plusieurs milliers de jeux disponibles sur cette cartouche virtuelle.
La classe.
Depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour le CPC, donc le rétro en général, hein, il n'y a pas que le CPC. Je pense que les DLC et les serveurs de jeux vidéo qui tombent régulièrement n'y sont pas pour rien. Hein.
Ah bon ?
Voilà. Donc ce revival se traduit par une augmentation du nombre de productions pour le CPC. Il y a par exemple une école d'informatique qui organise chaque année un concours de création de jeux vidéo. Ce concours, qui s'appelle le CPC Retro Dev, nous sort régulièrement des petites pépites. Alors... Pour ceux qui me viennent à l'esprit, hein, je ne les connais pas tous, mais il y a Babas Palace, Dragon Attack, qui est un Bullet L. Donc un truc, c'est ce jeu quand il est sorti, enfin, pour moi c'était un ovni. On a Opération Alexandra qui est magnifique. Et donc plein d'autres jeux. Donc si vous cherchez un CPC Retro Dev, vous verrez toutes les productions qui sortent là-dessus. Mais on pourra refaire une émission pour en reparler de tout ce qui sort régulièrement et donc, comme je vous disais, en nombre croissant. Alors, je vais terminer ce billet de présentation de l'Amstrad par une anecdote amusante. C'est-à-dire que l'Espagne avait créé une taxe pour les ordinateurs qui ne disposaient pas du N-Tilde et qui avaient 64 kilos ou moins de mémoire. Oh. Donc le principe, l'idée, c'était d'inciter à avoir soit des meilleures machines... donc avec plus de mémoire, soit d'avoir un support de clavier espagnol. Donc l'importateur de l'époque, lui, il ne voulait pas payer la taxe, qui devait être conséquente, il avait alors rebadgé les boîtiers, il avait écrit 472, et il avait modifié la carte mère pour y ajouter une puce de 16 kilos. Donc je sais pas de combien était le montant de la taxe, mais pour qu'il pousse le vice jusque-là, ça devait pas être donné. Alors cette puce mémoire était inutilisable, car en fait, il aurait fallu modifier le contrôleur mémoire qui était prévu uniquement pour gérer 64K. Parce
que c'est juste qu'elle était soudée sur la carte, mais c'est tout. Quoi.
C'était soudée sur la carte et c'était... Alors, je le connais pas, je ne l'ai pas celui-là, mais il y avait peut-être du courant qui passait dedans et puis après, ça faisait illusion. Donc finalement, Amstrad s'est décidé à ajouter le N-Tilde sur les claviers espagnols et la production du 472 ne pouvait que s'arrêter puisque la taxe ne s'appliquait plus. Donc aujourd'hui, cette version est assez recherchée par les Français pour son côté original, mais électroniquement parlant, c'est un 464, tout ce qu'il y a de plus classique.
Eh bien, pour aller plus loin aussi, on vous propose quelques liens sur YouTube notamment que vous retrouvez sur notre blog AAA.fr. Merci Rododou de nous avoir présenté cette magnifique machine qu'on n'avait pas encore eu l'occasion. Et la meilleure occasion, c'est quand les utilisateurs eux-mêmes parlent de leur machine. Et ça, c'est quand même super.
Ouais. C'est un plaisir.
On fait une petite pause musicale, on se retrouve pour l'agenda. À tout de suite.
Thank you.
C'est beau, si c'était quoi?
C'était hyper potion Snow Day. Oui, parce que j'aime bien la neige et comme on en a eu il y a quelques semaines déjà.
Moi, j'aime pas.
Donc voilà, c'est une petite pause bien sympathique. Elle est sympa. Nous allons passer à l'agenda. Alors, rappelez-vous que l'agenda que vous écoutez la première fois est celui de la semaine passée, l'heure de rediffusion, le samedi.
Et oui, c'est comme ça.
Alors, il y a la journée porte ouverte de l'IUT.
Oui, c'est à l'IUT de Valence, 51 rue Barthélemy de la Femas, à Valence, donc le samedi 9 février de 9h à 17h.
Esbra, bite my mic, rajeunissez votre Macintosh. Atelier d'échange pratique, vous avez un ancien Mac encore obsolète, en remplaçant votre disque dur par un disque SSD pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Tiens, c'est un peu comme vous faites sur ces PC. Ouais. Donc on pourrait éventuellement rajouter de la mémoire vive. À noter qu'il faudra se procurer les pièces avant, forcément c'est logique, et envoyer un petit mail au préalable. Donc c'est gratuit et sur inscription, ça se passe à l'usine vivante, 24 avenue Adrien Fayolle à Cré, le 9 février de 14h à 17h30. Et nous allons frotter la boule de cristal. Vas-y, qu'allons-nous voir, qu'allons-nous voir. Attention, cosplay. J'étais en Fantomas et j'avais tous les personnages.
Eh ben oui, Fantomas. J'ai compris, j'ai mis du temps à la comprendre aussi celle-là. Sysadmin, désolé, mais plateforme as a service, ça passe pas par moi.
Libriste, solo BSD, participe à Star Wars.
That's cool. Amstramgram et Collegram, tu montres aussi l'estrade.
Atariste, j'ai pas pu finir ma partition au midi et j'étais sur la touche.
Technophile, mais l'ARM fatale en fait, c'est le risque 5.
Ouais, c'est l'arme fatale.
C'est bien joli tout ça. Eh bien, merci amis auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine pour parler du midi. Donc, c'est pas à minuit, mais midi. Non, c'est, on ronronne pas non plus, ça c'était la semaine dernière. La semaine d'avant, purée. Vous allez tous m'embrouiller.
Mais le temps est un méli-mélo qui s'enchevêtre.
Mais qui aime bien les chats, t'es bien.
Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, le dimanche 13h,
ouais.
Ou le samedi à midi 15.
C'est quelque chose comme ça, ouais, 12h15.
Je crois bien. À la semaine prochaine, bye bye.
Ciao. Bye.